VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bienvenue à l'édition du 29 avril 2015 à la une ce soir.
Le Togo a choisi la continuité, du moins selon la commission électorale, qui a déclaré fort Niasingbe président, mais Jean-Pierre Fabre rejette les résultats de la présidentielle et se proclame président élu.
Au Burundi, la tension persiste tandis que l'émissaire de l'ONU pour la région des Grands Lacs poursuit ses consultations avec tous les acteurs de la crise politique à Bujumbura.
Au Nigeria, l'armée dit avoir sauvé près de 300 femmes et filles captives de Boko Haram.
Les États-Unis, retour au calme à Baltimore après plusieurs jours de manifestations violentes.
Dans un discours aujourd'hui devant le Congrès américain, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a présenté des excuses pour le rôle du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Les Togolais connaissent le nom de leur président pour les 5 prochaines années. Fort Niasingbe a été réélu avec plus de 58% des suffrages, selon les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, les chiffres de la CENI ne font pas l'unanimité. Le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, que la CENI a crédité de 39% des voix, s'est proclamé président élu, rapporte l'AFP. Écoutons le reportage de Kay Lawson, notre correspondante à Lomé.
La Commission électorale nationale indépendante a proclamé le président sortant vainqueur avec un pourcentage de 58,75% des suffrages exprimés. Avec 34,95% des voix, Jean-Pierre Fabre arrive en deuxième position, ce qu'il conteste en dénonçant un hold-up électoral. Fort Niasingbe remplit ainsi pour un troisième mandat au moment où Jean-Pierre Fabre promet arracher sa victoire tout en rassurant les jeunes acquis à sa cause d'attendre les mots d'ordre. Le gouvernement togolais, par la voix de son ministre de la Sécurité, dit être fermement attaché au calme et à la sérénité dans le pays. Il y a un vainqueur et il y a un vaincu, que la sagesse prévale. Gare au désordre a mis en garde le colonel Yak Damhan à l'annonce de la victoire de Fort Niasingbe. Soulignons que la CENI a proclamé les résultats ce mardi 28 avril 2015, après avoir rencontré une délégation présidentielle de la CEDEAO, composé du Ghanéen John Mahama et de l'Ivoirien Alassane Ouattara. Ces derniers ont aussi discuté avec le candidat de CAP 2015 et l'ont invité à recourir aux voies légales pour une éventuelle contestation des résultats de la CENI. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Mali, 2 membres de la garde nationale et un enfant ont été tués tôt ce matin par des hommes armés à Goundam, près de Tombouctou. Alassane Cissé, directeur de Radio Kumba Jodé à Goundam.
Vers 5h30, à la sortie de la mosquée, on entendait des coups de feu. Immédiatement, les gens se sont tarés dans leur maison. Ça a duré 30 minutes. À 6h, les coups de feu ont cessé et la jeunesse en était sortie pour se rendre vers le camp de garde. Arrivé sur les lieux, on a trouvé que le chef de peloton, lui, était déjà criblé de balles, ainsi que son adjoint et un de ses neveux, qui est arrivé hier soir seulement, dans l'après-midi chez lui. Et les assaillants, ils sont repartis dans 2 criseurs. Dans une crisière, il y avait 2 personnes. Dans l'autre, il y avait 3. Les gens ont se dit partout dans la ville, est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Les gens sont venus le chercher directement chez lui. C'était des surnourris. Mais on ne sait pas au juste de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que dès que le forfait est commis, les gens sont retournés sur la route de Tombouctou. L'armée était venue, la gendarmerie, je ne sais pas, ils sont partis à leur trousse ou quoi. C'était dur quand même. 3 personnes. On les a même enterrés vers 11h30. Toute la population était là. Il y avait même le chef de peloton de Diré qui était là à l'enterrement.
C'était Alassane Cissé, le directeur de Radio Kumba Jodé à Goundam, au Mali.
Au Nigeria, l'armée dit avoir sauvé près de 300 femmes et filles captives de Boko Haram. L'opération de sauvetage s'est déroulée ce mardi, plutôt hier mardi, dans la forêt de Sambisa, un des derniers bastions du groupe extrémiste islamique dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Jean-Roger Bian.
Cette forêt était considérée comme le lieu où les islamistes cachaient plus de 200 collégiennes enlevées à Chibok il y a un an par les extrémistes. Mais un porte-parole de l'armée nigériane a fait savoir que les filles de Chibok ne figurent pas parmi les personnes secourues. Les otages étaient répartis dans 3 camps au cœur de la forêt qui ont tous été détruits, selon le ministère nigérian de la Défense. La secte Boko Haram avait un moment pris le contrôle d'une partie des états de Yobe, Borno et de l'Adamawa, mais a aujourd'hui perdu la quasi-totalité de ses territoires à la suite de l'offensive multi multinationale. Le gouvernement du Niger a annoncé de son côté que 46 soldats et 28 civils ont été tués au cours de combats contre les militants de Boko Haram pour le contrôle de Karamga, une île sur le lac Tchad. 156 islamistes ont également été tués dans ces affrontements. Selon la même source, l'armée nigérienne affirme avoir repris le contrôle de l'île. Le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigeria ont récemment lancé une offensive pour mettre fin à l'insurrection de Boko Haram qui a fait plus de 10 000 morts et déplacé plus d'un million de personnes dans le nord du Nigeria.
Situation toujours tendue au Burundi en rapport avec la candidature du président Pierre Nkurunziza à un autre mandat à la tête du pays. Le secrétaire d'État adjoint américain aux droits de l'homme et à la démocratie, Tom Malinowski, devait rencontrer aujourd'hui les dirigeants burundais. Ici à Washington, l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Johnny Carson, aujourd'hui membre de l'Institut de la paix des États-Unis, se dit préoccupé par les risques de déstabilisation de ce pays des Grands Lacs. Des précisions avec Eddie Isango.
Dans une interview à la VOA, Johnny Carson a déploré la décision du parti CNDD-FDD de désigner le président Pierre Nkurunziza candidat à un autre mandat.
I think that it would have been better for purposes of stability.
Je pense qu'il aurait été mieux, pour des raisons de stabilité, de s'en tenir aux principes édictés par les accords d'Arusha. Ces accords limitent à deux le nombre de mandats qui peut exercer un président. Le gouvernement estime que M. Nkurunziza a droit à un autre mandat, ce que conteste l'opposition. Johnny Carson a appelé les Burundais à la retenue. Il est absolument essentiel pour toutes les parties, les gouvernements comme l'opposition, de ne pas utiliser ces désaccords politiques pour provoquer la violence et les troubles civils. L'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines a exhorté les autres pays africains à suivre les bons exemples. Il est important pour les pays ayant prévu la limitation des mandats dans leur constitution de la respecter, de s'inspirer de ce que font le Nigeria, le Mozambique, le Malawi, la Zambie, la Namibie, l'île Maurice et Madagascar, et non pas de ce qui se passe au Burundi, a déclaré Johnny Carson.
République démocratique du Congo, Nord Kivu, quatre jeunes de mouvement Lutte pour le changement, arrêtés début avril à Goma, ont été libérés sous caution cet après-midi, après une décision de la Cour d'appel samedi, indique Lucha RD Congo sur son compte Facebook. Le directeur de la prison, Munzenze, a confirmé leur libération, rapporte l'AFP. Ils avaient été arrêtés le 7 avril, alors qu'ils participaient à l'action Coup de sifflet pour la libération des activistes détenus à Kinshasa.
Un procureur français mène une enquête préliminaire sur des allégations d'abus d'enfants par des soldats français en Centrafrique, a déclaré ce mercredi un porte-parole du ministère de la Justice. Il répondait à un article du quotidien britannique The Guardian, disant que le directeur des opérations de terrain au Haut Commissariat de l'ONU, Anders Kompass, avait été suspendu après avoir révélé au procureur un rapport interne sur l'exploitation sexuelle des enfants par les troupes française.
Les conditions pour les médias dans le monde se sont fortement détériorées en 2014 pour atteindre le point le plus bas en 10 ans selon le rapport 2015 de Freedom House publié mardi. En 2014, les journalistes ont été confrontés à une intensification de pression de tous les côtés, a déclaré Jennifer Dunham, directrice du rapport, précisant que hormis les gouvernements et les groupes armés et organisations criminelles, des propriétaires de médias privés ont également manipulé des journalistes pour servir leurs intérêts politiques ou commerciaux. Dans le reste du monde ?
Oui, le roi Salman d'Arabie Saoudite a procédé à un vaste remaniement renforçant le pouvoir de son clan au sein du royaume. Ce remaniement est surtout marqué par un rajeunissement au sommet de la monarchie. Ainsi, le prince Saoud Al-Faisal, inamovible ministre des Affaires étrangères depuis 40 ans, est remplacé par l'ambassadeur saoudien à Washington, Adel Al-Jubeir, 53 ans. Le souverain saoudien a éloigné du trône son demi-frère, le prince Mokhren, 69 ans, pour le remplacer par son neveu Mohamed Ben Naïef, 55 ans.
En Syrie, l'armée gouvernementale est à l'offensive avec des frappes aujourd'hui à Alep et Idlib. Au moins 21 personnes, dont 6 enfants, ont été tuées et plus de 50 blessés dans ces raids, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, que cite l'agence France Presse.
États-Unis, retour au calme ce mercredi à Baltimore dans l'état du Maryland. Après plusieurs jours de manifestations violentes, les cours ont repris dans les écoles et selon la police, la ville est sécurisée. Hier soir, seulement 10 personnes ont été arrêtées durant les manifestations. La veille, le nombre d'arrestations dépassait 250. Les violences dans cette ville de l'Est américain font suite à la mort d'un jeune noir de 25 ans alors qu'il était détenu par des policiers.
Shinzo Abe au Congrès américain, il est le premier chef de gouvernement japonais à recevoir cet honneur. Dans son discours, le premier ministre japonais a exprimé, et je cite, sa profonde repentance pour le rôle du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Il a présenté des excuses pour l'attaque de l'aviation nippone contre les forces américaines à Pearl Harbor. Shinzo Abe, qui était l'hôte du président Obama hier à la Maison-Blanche, poursuit une tournée d'une semaine ici aux États-Unis.
Et mauvaise nouvelle pour l'économie américaine, le taux de croissance s'est ralenti de façon notoire au premier trimestre, le PIB ne dépassant pas un taux annuel de 0,2%. Voilà pour le journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Félix Yepassi Zembrou.
Le régulateur des télécommunications du Zimbabwe a annoncé mercredi la fermeture imminente du deuxième opérateur de téléphonie mobile du pays, Telecel Zimbabwe, pour violation de licence. Elle a donné à l'opérateur un délai de grâce de 30 jours. Telecel aura ensuite 60 jours pour démanteler ses installations. La Banque africaine de développement a décidé de lancer une étude de développement des PME des transports au Burkina Faso en vue d'un meilleur accompagnement de ce secteur. La BAD compte, souligne-t-on du côté du ministère burkinabé des Transports, d'étendre ses investissements au domaine de l'infrastructure, de l'énergie et de l'appui budgétaire, afin d'aider le Burkina Faso à mobiliser les ressources nécessaires à son développement. Les autorités congolaises ont procédé ce mercredi à Brazzaville à la destruction de 5 tonnes de défense d'éléphants issues du braconnage et du trafic illicite, selon l'agence France-Presse. Les présidents congolais Denis Sassou Nguesso et tchadien Idriss Déby ont mis le feu au stock d'ivoire. L'incinération de cette défense s'est déroulée sur l'esplanade du Palais des Congrès en marge de la cérémonie d'ouverture d'une conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d'Afrique qui s'achève demain jeudi.
Merci beaucoup Félix Yepassi Zembrou pour la Minute Éco. Et à présent, la page sportive avec Timothée Donormaille.
Oui, Timothée nous a fait savoir, Nathalie Barge, que Serge Aurier reste au PSG. Alors, le Paris Saint-Germain a levé aujourd'hui l'option d'achat du défenseur de 22 ans qui était prêté depuis le début de la saison par Toulouse. L'international ivoirien s'est donc engagé pour une durée de 4 ans avec le club de la capitale française. Et Serge Aurier, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations cet hiver, sera parisien jusqu'en juin 2019. Le montant de son transfert n'a pas été précisé par le club. Parlons de la suite des playoffs du championnat nord-américain de basketball, la NBA. Les Houston Rockets se sont qualifiés hier soir pour le prochain tour en prenant facilement le dessus sur les Dallas Mavericks. Les Rockets ont remporté la 4e victoire décisive lors du match numéro 5 disputé dans leur salle sur le score sans appel de 103 à 94. James Harden, candidat déclaré au titre de meilleur joueur de la saison, MVP comme nous le disons ici, a inscrit 28 points et fini une nouvelle fois meilleur marqueur de la rencontre. Mon équipe préférée, San Antonio, s'est imposée pour la deuxième fois en trois matchs, 111 à 107 au Staples Center chez les Los Angeles Clippers. La franchise texane mène désormais 3-2. Et en boxe, Las Vegas se prépare à accueillir le combat du siècle, Mayweather contre Pacquiao. C'est samedi soir, mais dans la ville du péché, Sin City, la fièvre est déjà là. Voilà pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorcil, à présent, les dossiers du jour.
Première escale, le Burundi. Saïd Djenit, émissaire de l'ONU pour la région des Grands Lacs, poursuit ses consultations avec tous les acteurs de la crise politique à Bujumbura. Le camp du président Pierre Nkurunziza a déjà saisi la Cour constitutionnelle afin qu'elle donne son avis sur sa candidature pour un troisième mandat. Les manifestations ont continué, mais ont baissé d'intensité. Idriss Fall a joint à Bujumbura Patrick Ndokimana, président de l'Association burundaise des radios et directeur de Bonesha, une radio privée.
Elles ont continué, mais à comparer avec les trois derniers jours, c'était un peu calme. Ce n'était pas aussi grave comme les trois derniers jours.
Et pourquoi ?
Je ne saurais pas le dire, mais aujourd'hui, il y a les militaires qui sont intervenus, qui ont essayé un peu de calmer le jeu, qui discutaient avec les manifestants, qui les demandaient de lever les barricades au milieu des routes. Je peux aussi penser que c'est aussi lié à la visite du représentant du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs qui est en train de mener une série de discussions avec les différents acteurs. Il y a aussi le sous-secrétaire d'État américain qui arrive pour mener des discussions avec les autorités burundaises mais aussi avec différents acteurs. C'est peut-être ça.
Les réseaux sociaux ne sont plus accessibles sur les téléphones mobiles. Qu'est-ce qu'il en est ?
C'est vrai, les réseaux sociaux ont été perturbés au moins pendant quelques heures. Mardi après-midi, il y a eu un petit rétablissement le matin de ce mercredi, mais c'est encore perturbé, ça se coupe tout le temps. Le réseau n'est pas stable.
Qu'en est-il des activistes de la société civile ? Pierre Claver Bonimpa a retrouvé la liberté ?
Ici, il a été libéré ce mardi après-midi. Mais entre-temps, il y a d'autres activistes de la société civile qui sont en train d'être recherchés par la justice parce qu'il y a des mandats d'arrêt qui ont été émis contre eux, donc ils se cachent pour le moment.
Est-ce que vous pensez que la tendance, ça va se durcir ou bien se calmer entre les deux camps?
Bon, je ne sais pas. De toutes les façons, hier, le conseiller principal en communication du président Nkurunziza a clairement indiqué que le président Nkurunziza n'est pas prêt à reculer devant les protestations, les manifestations. Et entre-temps, il y a certains parlementaires du parti au pouvoir qui ont déposé une requête au niveau de la Cour constitutionnelle demandant à cette Cour d'interpréter si Nkurunziza a droit ou non à briguer un troisième mandat. Donc, visiblement, au niveau du parti au pouvoir, ils avancent, ils disent qu'écoute, Nkurunziza doit briguer un troisième mandat. Mais côté opposition, société civile, même les manifestants avec qui je me suis entretenu, ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts à lâcher.
Votre radio ne peut plus émettre en dehors de Bujumbura et la RPA est fermée.
Oui, c'est là vraiment qui nous inquiète, nous en tant que responsables des médias, parce que la RPA a été fermée totalement. Ma radio Bonesha et l'autre radio Isanganiro, nous n'émettons qu'à partir de Bujumbura. Nous n'avons plus accès aux lignes téléphoniques pour pouvoir contacter les gens. Visiblement, le pouvoir est déterminé à ne pas nous laisser continuer à travailler.
On écoutait Patrick Ndokimana, président de l'Association burundaise des radios et directeur de Radio Bonesha.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine au Burundi. Impossible troisième mandat du président Pierre Nkurunziza met le pays en émoi et rappelle les heures sombres de la guerre civile. Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans notre émission à 19h TU sur VOA Afrique.
La vaccination contre l'épidémie de méningite se poursuit au Niger. Mais cette campagne ne fait pas que des heureux. Quatre jours après son début, les élèves et enseignants de certains établissements scolaires où elle se déroule se plaignent de n'avoir pas encore reçu les équipes de vaccinateurs. Ils décident alors de suspendre les cours. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
La vaccination partout est pour tous.
Alors que les autorités sanitaires annoncent 73% comme pourcentage de la population atteinte par la campagne de vaccination dans la ville de Niamey depuis vendredi dernier, des mécontentements surgissent aussi bien chez des élèves que des enseignants qui se plaignent de n'avoir pas encore reçu le fameux vaccin. Ali Amadou et Mega Issa sont respectivement responsable de la structure des élèves du collège d'enseignement secondaire du quartier Kwarakano et responsable de la section du syndicat des enseignants du 4e arrondissement communal de la ville de Niamey.
Dans un intervalle de deux semaines, nous avons enregistré plus de 7 cas, 7 décès causés par la méningite. Nous n'avons pas pu avoir bénéficié de ce vaccin. Et les campagnes de vaccination, ils sont en train de faire ces campagnes de vaccination dans les écoles privées où le parrain d'un seul élève peut prendre en charge tout le vaccin qu'il faut pour toute l'école.
Nous fustigeons nous aussi la manière discriminatoire par laquelle les autorités de la 7e République ont choisi délibérément d'écarter le 4e arrondissement Niamey 4, alors que nous comptons aujourd'hui dans nos écoles plus de 40 morts. Même si nous ne tenons pas compte des élèves, même les enseignants et enseignantes sont aussi atteints par la méningite. Il faut vacciner nos enfants parce qu'ils sont en train de mourir. Il faut vacciner nos collègues enseignants parce qu'ils sont en train de mourir. Donc la situation est très grave.
Comme moyen pour se faire entendre, tous décident de suspendre les cours jusqu'à ce que les équipes de vaccinateurs arrivent à leur niveau.
Nous, les membres du CS Kouarkano, du comité exécutif, nous avons décidé de ne plus prendre les cours tant que les élèves du CS Kouarkano ne sont pas vaccinés du 6e au terminal. Ils nous ont dit que c'est de 2 ans à 15 ans. Or que ici au CS Kouarkano, on a enregistré jusqu'à 2 cas dont tous les décès ont plus de 22 ans. Tant que l'État ne prend pas ses responsabilités par rapport à cette situation qui prévaut au sein de notre établissement, nous n'allons plus prendre cours.
Tant qu'il n'y a pas de vaccin au niveau de Niamey 4, en tout cas, il n'est pas question à ce que nos militantes et militants aillent s'exposer à l'épidémie de la méningite.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Maintenant sur le Nigeria, où le gouvernement a publié le rapport d'audit tant attendu sur la compagnie pétrolière nationale, la NNPC. Le document juge nécessaire une réforme de la gestion de cette compagnie. Écoutons les précisions de Lionel Gaïma.
Le mode d'opération de la NNPC doit être revu de toute urgence et restructuré, explique le rapport en soulignant que le fonctionnement actuel en place depuis la création de l'entreprise est intenable. Le président nigérian Goodluck Jonathan avait commandé l'audit l'année dernière à la firme Price Waterhouse Cooper suite aux accusations de l'ancien gouverneur de la banque centrale, Lamido Sanusi. Ce dernier avait fait état d'un manque d'environ 20 milliards de dollars dans les versements de la compagnie pétrolière nigériane au trésor public, des allégations qui avaient valu à Sanusi une suspension puis son remplacement à la tête de la banque centrale. Toutefois, l'audit semble lui donner raison. Parmi les problèmes relevés, un système incorrect et faible de comptabilité et de surveillance des revenus pétroliers et au moins 1,480 milliard de dollars d'erreurs de calcul et de coûts non justifiés. De l'avis de Luseun Onigbinde, cofondateur d'une ONG d'analyse du budget national nigérian, la compagnie pétrolière nigériane doit probablement plus au trésor et un nouvel audit doit être mené sous le nouveau président Muhammadu Buhari. Il a la volonté politique de le faire. Il était le tout premier PCA de la compagnie pétrolière. Il a été ministre du pétrole. Donc, il a une certaine compréhension de ce processus. Par contre, on ne peut pas faire confiance à certains éléments de son parti pour ce genre de réforme. Les allégations de corruption au sein de la compagnie pétrolière nigériane ne sont pas nouvelles. En 2012, l'ancien chef de l'agence nigériane anticorruption, Nuhu Ribadu, avait affirmé que quelques 100 milliards de dollars de revenus pétroliers et gaziers avaient été détournés entre 2002 et 2012. Le gouvernement a placé son rapport dans un tiroir. L'audit de PricewaterhouseCoopers servira sans doute de tremplin à Muhammadu Buhari, qui s'est engagé au cours de sa campagne électorale à lever le voile du secret qui entoure la compagnie pétrolière nationale. La réforme doit être immédiate et profonde, estime le journaliste et commentateur nigérian Tolu Ongulensi. C'est la plus importante caisse noire au Nigeria et cette pratique ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Le gouvernement entrant pourrait être tenté de la conserver afin de continuer à l'utiliser, comme le précédent. Une grande tentation. Tolu Ongulensi explique en avertissant que de par son importance, la NNPC peut écraser toute tentative de réforme. L'un des facteurs pouvant influencer le débat actuel est que la caisse noire n'est plus aussi importante que par le passé. La dégringolade des cours du pétrole a effectivement vidé les caisses du gouvernement nigérian. Malgré tout, le président élu, Muhammadu Buhari, aura du mal à faire le nettoyage dans la nébuleuse qu'est l'industrie pétrolière nationale.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Et pour notre dernier dossier, parlons société et religion. Une récente étude du Centre américain de recherche Pew prédit qu'il y aura autant de musulmans que de chrétiens en 2070, mais que les musulmans seront plus nombreux à la fin du 21e siècle. Des précisions avec Issia Kaba.
Nous prédisons que d'ici l'an 2070, il y aura un nombre égal de chrétiens et de musulmans dans le monde, souligne M. Hackett. Ces changements, précise le Dr Hackett, sont à attribuer à une forte croissance démographique chez les musulmans, plus précisément à des taux de naissance plus élevés et à une population jeune et non pas à la conversion à l'islam. Pour les experts, si l'on va au-delà des gros titres générés par cette étude, on a une image plus nuancée de ces tendances, due essentiellement à la croissance démographique globale en Afrique, tant pour les musulmans que pour les chrétiens. D'ici au milieu du siècle, le continent abritera 40% des chrétiens du monde. L'étude, poursuit Hackett, montre aussi que les chrétiens augmenteront également leur nombre dans le monde. Donc, pour les musulmans comme pour les chrétiens, cela peut être perçu ici comme une bonne nouvelle. On ne peut pas en dire autant pour les bouddhistes, dont le nombre restera au même niveau, soit un demi-milliard de fidèles. Le professeur britannique David Voss de l'Université d'Essex. Mais globalement, la démographie reste le moteur. Et le professeur Voss précise que le nombre ne garantit point la domination. Ce qui compte vraiment, je crois que c'est la productivité économique et culturelle. Est-ce qu'on réussit à transformer son plus grand nombre en influence dans le cadre de l'économie mondiale et en puissance politique? Toujours est-il que les chercheurs reconnaissent que mesurer l'identification religieuse n'est point une science exacte et que les tendances démographiques restent imprévisibles.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, International Music, Comédie, Country Music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Un rappel des titres.
Le Togo a choisi la continuité. Selon la commission électorale, Fornia Singbe a été réélu, mais Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition togolaise, rejette les résultats et se proclame président élu.
Au Burundi, la tension persiste tandis que l'émissaire de l'ONU pour la région des Grands Lacs poursuit ses consultations avec tous les acteurs de la crise politique à Bujumbura.
Au Nigeria, l'armée dit avoir sauvé près de 300 femmes et filles captives de Boko Haram.
Aux États-Unis, c'est le retour au calme à Baltimore après plusieurs jours de manifestations violentes.
Dans un discours devant le Congrès américain, le Premier ministre japonais Shinzo Abe présente des excuses pour le rôle du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale.
Au Mali, deux membres de la garde nationale, une composante de l'armée et un enfant ont été tués tôt ce matin par des hommes armés à Goundam, près de Tombouctou. Les assaillants ont pu s'échapper et le mobile de leur attaque n'est pas encore connu.
RDC Nord Kivu, quatre jeunes du mouvement Lutte pour le changement, arrêtés début avril à Goma, ont été libérés sous caution cet après-midi après une décision de la cour d'appel samedi. C'est ce qu'indique Lucha RD Congo sur son compte Facebook.
Et la vaccination contre l'épidémie de méningite se poursuit au Niger, mais les élèves et enseignants de certains établissements scolaires où elle se déroule se plaignent de n'avoir pas encore reçu les équipes de vaccinateurs. Ils décident alors de suspendre les cours.
Cette édition touche à sa fin. Merci Georges Léonard Sagnot qui a dirigé la mise en onde, assisté de notre ami Santos, présentation Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Dans un instant, un résumé de l'actualité africaine et internationale. Très bonne soirée.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VO.